Si vous avez été attentif aux paroles du prophète Isaïe, il nous annonce une joie extraordinaire. Il nous dit que le désert, la terre aride, vont se couvrir de fleurs. La gloire du Liban, et le Liban est fleuri, c'est un grand verger, la gloire du Liban sera donnée et le désert deviendra un Liban, un jardin. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu en plein désert. Et Isaïe va jusqu'à dire, le désert va sauter, danser et crier de joie. Est-ce que le désert peut sauter, danser et crier de joie? Il s'agit de nos déserts, du désert du peuple d'Israël, de notre désert, de nos aridités, transformées en cris de joie. Mais d'où est-ce que cela peut venir, une joie si grande, si belle? Isaïe nous dit, l'origine de cette joie, c'est la vengeance de Dieu, c'est-à-dire la réponse de Dieu au mal. Et qui Dieu va-t-il envoyer pour répondre au mal? Il n'envoie personne. Il vient lui-même. Il vient lui-même vous sauver. Vous sauver. La vengeance de Dieu, c'est de nous sauver. La réponse au mal, c'est de nous aimer, de nous sauver, de nous relever. C'est de prendre le mal sur lui pour que nous en soyons libérés. Et Isaïe nous donne les signes qui vont annoncer, qui vont faire voir ce salut de Dieu. Eh bien, les yeux des aveugles vont s'ouvrir, les oreilles des sourds vont s'ouvrir, les boiteux vont bondir comme un cerf. Vous avez déjà vu un cerf bondir, c'est quelque chose. Des eaux jailliront dans le désert, c'est-à-dire dans la vie, dans le cœur des plus petits, des pauvres. Remarquez bien de quel genre de signe il s'agit. Est-ce que Isaïe parle de grands bouleversements politiques? Est-ce qu'il parle de Dieu qui ferait un triomphe médiatique? Pas du tout. Le salut, on le voit poindre dans le cœur et dans la vie des petits, des aveugles, des boiteux, des pauvres, de tous ceux qui ont un cœur de pauvre. Voilà la parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Le Seigneur s'adresse à nous comme à des exilés de la vraie joie. Et avec une infinie tendresse, il nous dit, et c'est toujours Isaïe, « Ils reviendront ceux que le Seigneur a rachetés. » Donc, « Vous reviendrez, vous que le Seigneur a rachetés. Vous arriverez à Sion, à Jérusalem, avec des cris de joie. Allégresse et joie viendront à votre rencontre. Tristesse et plainte auront pris fin. » La vie chrétienne, la vie fondée sur le salut offert par Jésus dans sa mort et sa résurrection, c'est cela. C'est fondamentalement une vie de joie. Fondamentalement. Vous vous souvenez de la première phrase de la lettre du pape? La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Et un peu plus loin, avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Mais essayons de creuser un peu tout cela, parce que de fait, cette joie, elle n'est pas toujours au rendez-vous dans nos cœurs, n'est-ce pas? Alors, il nous faut aller chercher dans l'évangile de ce dimanche. J'y suis allé, j'ai cherché, je me suis promené, j'ai marché, dans l'évangile de ce dimanche, et j'ai fini par repérer une pépite d'or, une pépite de joie dans l'évangile de ce dimanche. La voici. Heureux est-il celui qui ne sera pas scandalisé par moi. Le texte liturgique dit qu'il ne tombera pas à cause de moi, et en bon québécois on dit celui qui ne sera pas choqué. Heureux celui qui ne sera pas choqué à cause de moi. C'est une parole de Jésus. Dans quel contexte? contexte est le suivant. Jean-Baptiste est en prison, sans doute dans les sous-sols lugubres, macabres, de la forteresse de Macéronte. En prison, parce qu'il a dit la vérité à Hérode, et ça n'a pas plu à Hérode. Or, Jean, emprisonné, entend parler de ce que fait Jésus. Et il n'entend pas parler de jugement tranchant, de condamnation violente, de châtiment ou de royaume qui vient, et puis ça se verrait, ça serait grandiose. Or, Jean attendait et avait annoncé un Messie juge qui allait remettre de l'ordre et sans ménagement. Certes, sous l'action de l'Esprit Saint, Jean avait désigné Jésus comme agneau de Dieu, comme celui qui allait souffrir avec une douceur et une humilité pas ordinaires. Mais tout de même, aucun signe d'un royaume politique qui commence à se mettre en place. Ainsi, Jean envoie des messagers auprès de Jésus avec la question qui pèse sur son cœur. Es-tu celui qui doit venir, c'est-à-dire le roi Messie, qui doit sauver le peuple, et notamment les pauvres, et établir le royaume de Dieu? Ou bien est-ce qu'il faut en attendre un autre? Que répond Jésus? Voici sa réponse. Allez annoncer à Jean, donc dans sa prison, ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purs et les sourds entendent, les morts se réveillent et aux pauvres est annoncée la bonne nouvelle. Vous reconnaissez l'annonce d'Isaïe. Pour Jean qui connaît parfaitement l'Écriture, c'est un langage très clair. Oui, le Messie est bien là. Tu n'as pas à en attendre un autre. Or Jésus ajoute une phrase toujours adressée à Jean, portée par les messagers. Heureux celui qui ne se scandalisera pas à cause de moi. À cause de moi, Jésus. Que signifie ce scandale? Pourquoi est-ce que Jean se scandaliserait? Jean se scandaliserait, c'est-à-dire il tomberait, si, voyant que Jésus ne procède pas à un grand ménage, à une grande révolution religieuse et sociale, Jean disait, il fait des signes, oui, mais ce n'est pas le Messie. C'est-à-dire, Dieu est grand, il est le Très-Haut, le Tout-Puissant, donc ses œuvres doivent être des œuvres de puissance. Il se voit, il change du tout au tout la face du monde. L'œuvre de Dieu ne peut pas être comme du levain dans la pâte qui agit discrètement et en silence. Non, Jésus n'est pas le Messie de Dieu. Donc je reste sur mes positions vis-à-vis d'Hérode, parce que je tiens à la justice, je reconnais la sainteté de Jésus, mais ce ne peut pas être lui le sauveur du monde. Ça, ça serait Jean qui se scandaliserait, qui tomberait. Heureux celui qui ne perd pas confiance en Jésus à l'heure de l'épreuve. Heureux celui qui ne se scandalisera pas à cause de Jésus dans la douceur et l'humilité de son cœur. Heureux celui qui ne se scandalisera pas à cause de Jésus crucifié. Heureux celui qui fait confiance en un royaume qui n'est pas de ce monde, bien qu'agissant dans ce monde. Heureux celui qui aime ce royaume qui est comme le levain dans la pâte. La joie véritable, la joie de l'Évangile, c'est cela. Le secret de la joie est là. Heureux, lui dit Jésus. Heureux es-tu, Jean-Baptiste, si tu ne te scandalises pas. La joie véritable n'est pas de posséder quoi que ce soit, Elle est dans la certitude que Dieu est à l'œuvre, que le salut est là, déjà, dans la personne de Jésus, aujourd'hui. Le royaume de Dieu n'est pas et ne sera jamais dans un pouvoir de ce monde ou dans des effets médiatiques. Il est dans le cœur du monde. Il est dans le fond de ton cœur. Il est dans l'être même de toute la création. On ne le voit pas comme on voit les choses de ce monde. Mais il est là, le royaume. Et croire cela, c'est la vraie joie, la joie véritable. On ne trouve et on ne trouvera jamais la joie dans ce que l'on possède. Mettre sa joie dans la possession d'une chose ou d'une personne, c'est être possédé par cette chose ou cette personne. Il n'y a là aucune joie, bien au contraire, et nous savons par expérience toutes les formes de dépendance. Aussi, la joie est inséparable de la patience, de l'attente, du désir. Prenez patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur, nous a dit Saint Jacques tout à l'heure. Voyez le cultivateur, il attend le fruit précieux de la terre sans s'impatienter à son propos, parce qu'il sait que la semence est dans la terre, que la semence est en train de germer, d'où la joie du cultivateur. Heureux le cultivateur, heureux es-tu si tu as cette patience. La joie chrétienne est inséparable de la patience. Vous voyez l'effet pernicieux de la publicité ? Elle nous enferme dans la culture de la consommation et de la possession. Et donc elle nous prive de la vraie joie. La joie véritable, c'est un don de l'Esprit Saint que je demande pour nous ce matin et que nous demandons les uns pour les autres, si vous voulez. De l'Esprit Saint qui dépose en nous la certitude, ou plutôt au mieux la confiance, que le salut est donné, que la résurrection, déjà accomplie en Jésus, s'accomplit mystérieusement dans le cœur du monde. La grandeur de Jean-Baptiste, c'est d'avoir accueilli cette joie-là sans être témoin de la résurrection. C'est pour cela que c'est le plus grand parmi tous les enfants nés des femmes. Je voudrais tant que vous goûtiez cette joie. Elle n'est liée à aucune possession. Elle n'est liée à aucun statut social. Elle n'est liée à aucun statut religieux. Elle est la certitude toute confiante que le salut est à l'œuvre, y compris dans nos coups durs, nos épreuves, nos peines de cœur, nos dépressions et les guerres. Je voudrais terminer par une illustration très concrète de ce que je vous partage là. Le temps de Noël, le temps des fêtes, comme on dit souvent, est un temps très délicat, parce que c'est un temps chargé de beaucoup de nostalgie, un temps chargé de beaucoup d'attentes affectives et émotives. Or, souvent, très souvent, on s'approche de Noël et puis on vit Noël sans recevoir ce que l'on attend affectivement, pour toutes sortes de raisons, surtout liées aux circonstances familiales douloureuses. Et les fêtes peuvent être très rudes, et beaucoup de gens cachent leurs souffrances et leurs peines pendant les fêtes de Noël. C'est là qu'il faut nous souvenir que la joie la plus profonde, nous ne la trouverons jamais dans des biens affectifs. La vraie joie est en celui qui est là déjà, avec son royaume, caché au cœur du monde. La vraie joie est en celui qui se donne à nous avec un amour illimité, Jésus. si nous comprenons cela avec le cœur, au lieu de sortir de Noël triste et frustré, parce que nous n'aurons pas reçu les gestes d'affection désirés, nous en sortirons heureux, renouvelés. Et chaque petit geste d'affection dont nous aurons été témoins ou bénéficiaires sera comme un plus de joie. Mais notre vraie joie, le feu, il n'est pas dans les cadeaux ou dans les gestes affectifs. Il est dans la présence de Jésus, dans la venue de Jésus, dans le don de Jésus. Et c'est là que nous cherchons et puisons notre véritable joie. Et puis surtout, habités par la joie de Jésus, nous ne serons plus centrés sur nos besoins à nous. Nous aurons toute une énergie pour rendre vraiment beau le Noël des autres, et surtout des plus pauvres, des plus délaissés. Alors Seigneur Jésus, nous te demandons ce matin de faire descendre sur nous ton Esprit Saint. Alors, sans te voir, nous t'aimerons. Sans te voir, nous croirons et nous exulterons d'une joie ineffable et glorieuse. Amen.